Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir et un honneur pour moi que d'être là ce matin à ces deuxièmes services. Je veux d'abord dire merci au Seigneur qui a rendu et qui rend cette occasion possible. Mais je voudrais aussi m'acquitter du devoir de dire merci au pasteur Caillou, un homme que j'ai connu de réputation. Parce que pasteur Thierry ainsi que ses frères, Léon et Fidèle, m'ont souvent parlé de lui. Et puis j'ai eu la possibilité cette semaine de faire connaissance avec lui. Nous avons eu à partager quelques temps au bureau. Il nous a accordé de son précieux temps. Et qu'est-ce que je suis rentré avec un très très bon souvenir. Mais bon, je ne le connaissais pas encore en tant que prédicateur jusqu'à ce que hier soir, waouh, j'ai eu la possibilité de l'écouter. Je disais aux amis, j'en ai parlé même à mon épouse au téléphone, je dis au début c'était comme un volcan qui est en sommeil. Il a commencé timidement et puis quand il a atteint la vitesse des croisières, je me disais est-ce qu'il va savoir s'arrêter. Mais qu'est-ce que c'était glorieux, glorieux, merveilleux. Je l'ai dit au premier service et j'aimerais le dire aussi au second. Pasteur Caillou, la petite réputation que l'on m'avait faite de toi quand je parlais avec toi au bureau et puis quand je t'ai entendu hier, je vous l'ai dit comme la reine de Séba, on ne m'a pas dit la moitié. Que Dieu te bénisse et plaise à Dieu, que tu continues à rester cet homme que je sens dans mon cœur, que tu es. Vous savez, on n'a pas besoin de vivre 1000 ans avec quelqu'un pour les connaître. Il y a certaines personnes, quelques secondes, quelques minutes, on sent qu'il y a quelque chose. Merci aussi au pasteur Thierry qui nous a servi de pont. Je le disais au pasteur Caillou l'autre fois au bureau, j'ai appris le ministère auprès d'un homme qui était très très exigeant et très très rigoureux. Il est auprès du Seigneur depuis l'année passée, en 79 ans. Il ne laissait pas la chair à n'importe qui, surtout pas à un inconnu. Et quand on m'a dit qu'il me laissait la chair, j'ai dit waouh, en tout cas il est différent de mon pasteur. Alors, si d'aventure, pendant que je serai en train de prêcher, je ne suis pas à la hauteur, n'hésite pas de venir m'arracher les micros. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16. Et nous lirons du premier verset au septième. Si je dois être sincère, c'est le seul verset 7 qui m'intéresse le plus. Mais c'est toujours bon de prendre tous les contextes et d'avoir une idée assez générale. Donc Marc au chapitre 16, du premier verset au verset 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans les tombeaux, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, les crucifiés. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais soulignez bien le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez, comme il vous l'a dit. J'aimerais répéter ce septième verset. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez, comme il vous l'a dit. J'aimerais prendre pour thème en ces débuts d'après-midi, ces bouts de phrase, la deuxième partie du verset 7, et à Pierre. Et à Pierre. D'entrée, j'aimerais dire que ce message que Dieu a déposé dans mon cœur s'adresse à deux catégories de personnes. Elle s'adresse d'abord aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, aux filles et garçons qui aiment le Seigneur, qui veulent être des personnes qui plaisent à Dieu, des personnes qui vivent une vie qui plaît à Dieu et peut-être aussi qui plaît à leur entourage, mais qui n'arrivent pas à l'être. Savez-vous qu'il est possible de réellement aimer Dieu et quelquefois ne pas toujours faire ce que Dieu veut? Paul n'a-t-il pas dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire, mais le mal que je veux pas faire, c'est ce que je fais. Il a dit, j'ai le désir,
mais n'ont le pouvoir de faire le bien. Et comme dans un cri de désespoir, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Nous sommes des fois prompts à condamner les gens, à les étiqueter. On va dire, celui-là, il est tout bon, celui-là, il est tout mauvais. Mais la deuxième catégorie de personnes à laquelle je veux m'adresser au travers de ces messages que Dieu a déposés dans mon cœur, c'est aux responsables, aux parents, aux pasteurs, aux leaders, à quelques personnes qui ont quelques parcelles de responsabilité. Combien nous aimons des personnes parfaites, des personnes qui ne se trompent jamais, des personnes qui ne commettent pas d'erreur. On aime des personnes qui sont bonnes, toujours bonnes, et de manière constante, bonnes. On n'aime pas les gens qui se trompent, on n'aime pas les gens qui fautent, les gens qui font ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Dans 10 jours, les 6 mars exactement, je vais totaliser 49 ans. Et j'ai bientôt 29 ans dans le Seigneur et 25 ans dans l'œuvre de Dieu. Quand je me regarde, je suis le fruit de la patience de Dieu et de la patience des hommes et des femmes qui m'ont entouré. Sans la patience de Dieu, que serais-je devenu? Sans la patience des aînés, je pense souvent à mon pasteur qui est auprès du Seigneur. Cet homme m'a supporté avec S majuscule. Vous savez, il y a des gens qui sont faciles à aimer parce qu'ils sont aimables. Moi, je n'étais pas aimable. Des fois, je me regardais tout jeune dans la foi et dans le ministère. Je dis, comment il fait pour m'aimer encore? Quelquefois, les gens ne sont pas toujours bons et tout bons au début. Il y a des personnes qui ont besoin que vous et moi, nous leur fassions cadeau d'une merveilleuse vertu qui de plus en plus dans notre monde se fait rare, la patience. Mon père me disait, en définissant la patience, il disait que la patience a trois facettes. La première facette de la patience, c'est que la patience accepte un présent non plaisant. Mais elle accepte cela. Il n'est pas, elle n'est pas ce que j'aurais voulu qu'il devienne ou qu'elle devienne, même. J'accepte ça. Deuxième facette de la patience, c'est que la patience espère que ce que l'on n'est pas, on peut le devenir. Et dans cet aspect de la patience, il y a la foi. La foi en un futur, non seulement qui n'est pas, mais il n'y a même pas d'indice qu'il peut être. Mais on décide à croire. Et cet aspect aussi cache un risque parce que celui que l'on croit qu'il peut devenir, il est possible qu'il ne devienne pas. Et la troisième facette de la patience, c'est que là où il y a la patience, on fait cadeau à l'autre du temps. On laisse le temps les transformer. Et j'aimerais nous dire, j'ai vu au travers du temps combien le temps a un pouvoir de transformation fantastique. Chez moi au pays, j'ai un jeune et brillant avocat, il est parmi les meilleurs, parmi les 5. Son cabinet est toujours rempli. Il a à peine 29 ans ou 30 ans aujourd'hui. Mais je l'ai connu quand il avait 4, 5 ans. C'est un homme éloquent. Waouh! Qu'est-ce qu'il parle bien! J'ai assisté à ses plaidoiries. Waouh! La rhétorique, c'est son affaire. Quelqu'un disait de lui, il est la rhétorique faite homme. Tellement il parle bien et très bien. Concision dans les mots, dextérité dans le choix de ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Mais quand je vois les tableaux qu'il présente aujourd'hui, cela n'a rien à faire avec ce qu'il était il y a une vingtaine d'années quand je l'ai connu. Je l'ai connu, il avait 4 à 5 ans et j'ai toujours gardé, j'aime de temps en temps de lui rappeler, bon, il avait dit celui qui rappelle les fautes. Mais de temps en temps, j'aime les lui rappeler. J'ai dit, je t'ai connu tout petit quand il avait 4 à 5 ans. Je l'appelais Yannick, est-ce que tu peux dire araignée calmement? En vous regardant dans les yeux, il disait agnéré. Et quand on coupait les syllabes, il réussissait. Tu lui dis ah, il dit ah, ré, il dit ré. Là, mais tu dis araignée calmement, il te dit agnéré. Mais le temps a transformé la même personne en quelqu'un d'hyper éloquent. Ah, si seulement quelqu'un pouvait faire cadeau du temps à quelqu'un d'autre, il verra les faibles devenir forts. Il verra les chancelants devenir stables. Il verra celui qui titubait bientôt se lever. Quand Marc relate ce récit, qui part du jour de la résurrection du maître, il insiste sur ces petits détails, sur ces messages que Christ a donné à l'ange. Je veux revoir ce avec qui j'ai marché, ce que je préparais, à qui j'ai confié une mission, qui m'ont vu être pendu au bois, qui ont perdu espoir. Je veux qu'ils sachent que je suis en vie, mais je veux qu'ils sachent que nous allons continuer la mission. Et Christ confie ce message à l'ange qui, comme un interprète fidèle, donne le message à Marie de Magdala. Voici ce que Christ a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Ce bout de phrase est étonnant. Pourquoi dire, allez dire à ses disciples et ajouter, et à Pierre? Parce que Pierre fait partie des disciples. Est-ce qu'on a besoin de dire, allez dire à l'église de Smyrne et au pasteur Caillot? Est-il en dehors? Nullement. Mais ce bout de phrase a toute son importance. Nous le verrons au travers du développement du message. Le même verset, dans la version français courant, est traduit comme ça, « Allez dire à ses disciples, y compris à Pierre. » Pourquoi? Parce que nous le verrons, Pierre s'excluait déjà, s'auto-excluait à cause de ce par quoi il était passé. La version parole de vie dit « Allez dire à Pierre et aux autres disciples. » Là même, Pierre est placé en premier, comme pour dire « D'abord et surtout lui. » La version des semeurs dit, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Mon message va s'articuler sur 5 axes. Je vais au départ essayer de faire un bref rappel sur Marc, l'évangéliste qui a écrit, ainsi que sur son évangile. Après, je parlerai aussi de Pierre, de son passé, de son appel et de son parcours. Et puis je prendrai le troisième point qui est vraiment le point focal. Je parlerai de son reniement et des conséquences de celui-ci dans son homme intérieur. Le quatrième point, je parlerai de sa réhabilitation. Et enfin, je vais conclure avec les exploits que cet homme a eu à accomplir après sa réhabilitation. Actes chapitre 12, au verset 12, nous montre que Marc, l'évangéliste, avait comme mère une femme qui s'appelait Marie et qui résidait à Jérusalem. Colossiens au chapitre 4, dans son verset 10e, nous montre qu'il était cousin de Barnabas. Alors on peut comprendre pourquoi un jour, quand il y a eu différend dans l'appréciation entre Paul et Barnabas, après que ce jeune homme qui les avait accompagnés lors du premier voyage missionnaire et qui les avait lâchés, a voulu revenir une seconde fois, il y a eu quiproquo, malentendu, et que Barnabas a pris part pour partir plus tôt pour Marc, sûrement parce qu'il croyait en son ministère, mais ce n'est pas impossible aussi, parce qu'ils avaient des liens de parenté. La tradition affirme que Marc était compagnon de Pierre, si on peut croire à cela. Et même par rapport à cela, il est même dit qu'il est possible que l'évangile de Marc ait été écrit sous la dictée de Pierre, ou alors Pierre a donné des éléments qui ont fait que plus tard, Marc puisse écrire. L'évangile de Marc, c'est l'évangile le plus court. Il a un style vivant et un pittoresque au même moment. Une grande partie de cet évangile est commune à ce que Matthieu ainsi que Luc ont eu à reporter. Mais il y a certaines choses que l'on ne trouve que chez Marc. Par exemple, en lisant Marc chapitre 1, verset 13, On part d'une expérience, c'est vrai, la plupart des évangiles parlent de la tentation de Jésus-Christ, mais c'est seul Marc qui fait mention de cela, que Christ a eu affaire aux bêtes sauvages. Seul Marc en parle. Marc chapitre 3, verset 7, nous parle du surnom qui est accordé à une famille à cause de leur caractère. Ces jeunes gens étaient appelés Boanerges, fils du tonnerre. Contrairement à Matthieu, qui a tendance, chaque fois qu'il écrit, à rattacher ce qui se passe avec les prophéties bibliques, parce qu'il a un auditoire juif. Marc, par contre, ne fait pas cas de beaucoup d'enseignements. Il parle plus des actions, plus des miracles, plus des choses que Christ a eu accomplies. Du reste, on retrouve 19 miracles mentionnés par lui. Et l'un des termes qui revient le plus souvent dans l'évangile de Marc, c'est « aussitôt ». Il passe d'une action à une autre. Et c'est ce Marc-là qui écrit cet évangile. Et dans cet évangile, il relate une bonne partie du parcours de Pierre. Pierre, qui était-il? Jean chapitre 1, verset 44, nous montre qu'il était originaire de Bethsaïda, avec André et un autre disciple du maître qui s'appelait Philippe. Dans Jean toujours, au chapitre 1er, verset 40 à 42, et Matthieu, chapitre 4, verset 19, sont deux passages que j'aime souvent mettre côte à côte. Deux passages qui, je ne crois pas que ces passages se contredisent, mais ces passages sont complémentaires. Ces deux passages nous parlent de ses premiers contacts avec le maître. Jean présente cela en disant que c'est d'abord André, son frère, qui a été en contact avec le maître et qui a fini par amener Pierre auprès du maître. Mais dans Matthieu, il est montré qu'un jour, alors qu'ils étaient dans leur barque, Christ est venu, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. J'aime beaucoup ces bouts de phrase. Il ne dit pas que vous deviendrez, il dit je ferai de vous. C'est-à-dire dans votre devenir, je serai participant. Je serai un acteur pour votre transformation. Mais une chose aussi que j'aime dans ces versets, il dit je ferai de vous. Il veut dire que ça sera un processus. Ça prendra du temps pour que vous quittiez un état A vers un autre état B. Et très vite, cet homme qui a rejoint l'équipe de Jésus-Christ, il a reçu des enseignements et l'on peut lire au travers des évangiles, petit à petit, il a commencé à prendre une place prépondérante. Si vous étudiez les évangiles, vous trouvez que Christ a travaillé avec les 70 et puis au moment où il a eu un groupe de 12, mais dans les 12, si le terme peut être utilisé, il avait quelques privilégiés. Trois, qu'il associait à certaines activités. Chaque fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que les autres apôtres ont dû penser à quelques reprises? Quand il agissait d'une certaine manière où on avait l'impression qu'il y avait des apôtres de première classe et des apôtres de seconde classe. Dans Marc chapitre 9, verset 2, la Bible nous montre qu'il était associé à l'expérience de la transfiguration. Christ déclare, il dit, certains d'entre vous ne mourront pas qu'ils verront le royaume des cieux. Et la Bible dit, un certain jour, il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Je me suis toujours posé la question, et les autres n'avaient pas besoin d'expérimenter la transfiguration? Pourquoi ces trios? Mais le temps a transformé la même personne en quelqu'un d'hyper éloquent. Ah, si seulement quelqu'un pouvait faire cadeau du temps à quelqu'un d'autre. Il verra les faibles devenir forts. Il verra les chancelants devenir stables. Il verra celui qui titubait bientôt se lever. Quand Marc relate ce récit, qui part du jour de la résurrection du maître, il insiste sur ces petits détails, sur ces messages que Christ a donné à l'ange. Je veux revoir ceux avec qui j'ai marché, ceux que je préparais, à qui j'ai confié une mission, qui m'ont vu être pendu au bois, qui ont perdu espoir. Je veux qu'ils sachent que je suis en vie, Mais je veux qu'ils sachent que nous allons continuer la mission. Et Christ confie ce message à l'ange qui, comme un interprète fidèle, donne le message à Marie de Magdala. Voici ce que Christ a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Ce bout de phrase est étonnant. Pourquoi dire, allez dire à ses disciples et ajouter, et à Pierre? Parce que Pierre fait partie des disciples. Est-ce qu'on a besoin de dire, allez dire à l'église de Smyrne et au pasteur Caio? Est-il en dehors? Nullement. Mais ce bout de phrase a toute son importance. Nous le verrons au travers du développement du message. Le même verset, dans la version français courant, est traduit comme ça. Allez dire à ses disciples, y compris à Pierre. Pourquoi? Parce que nous le verrons, Pierre s'excluait déjà, s'auto-excluait à cause de ce par quoi il était passé. La version parole de vie dit, allez dire à Pierre et aux autres disciples. Là même, Pierre est placé en premier, comme pour dire d'abord et surtout lui. La version Les Semeurs dit, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Mon message va s'articuler sur 5 axes. Je vais au départ essayer de faire un bref rappel sur Marc, l'évangéliste qui a écrit, ainsi que sur son évangile. Après, je parlerai aussi de Pierre, de son passé, de son appel et de son parcours. Et puis, je prendrai le troisième point qui est vraiment le point focal. Je parlerai de son reniement et des conséquences de celui-ci dans son homme intérieur. Le quatrième point, je parlerai de sa réhabilitation. Et enfin, je vais conclure avec les exploits que cet homme a eu à accomplir après sa réhabilitation. Actes chapitre 12, au verset 12, nous montre que Marc, l'évangéliste, avait comme mère une femme qui s'appelait Marie et qui résidait à Jérusalem. Colossiens au chapitre 4, dans son verset 10e, nous montre qu'il était cousin de Barnabas. Alors on peut comprendre pourquoi un jour, quand il y a eu différend dans l'appréciation entre Paul et Barnabas, après que ce jeune homme qui les avait accompagnés lors du premier voyage missionnaire et qui les avait lâchés, a voulu revenir une seconde fois, il y a eu quiproquo, malentendu, et que Barnabas a pris part pour partir plus tôt pour Marc, sûrement parce qu'il croyait en son ministère, mais ce n'est pas impossible aussi, parce qu'ils avaient des liens de parenté. La tradition affirme que Marc était compagnon de Pierre, si on peut croire à cela. Et même par rapport à cela, il est même dit qu'il est possible que l'évangile de Marc ait été écrit sous la dictée de Pierre, ou alors Pierre a donné des éléments qui ont fait que plus tard, Marc puisse écrire. L'évangile de Marc, c'est l'évangile le plus court. Il a un style vivant et un pittoresque au même moment. Une grande partie de cet évangile est commune à ce que Matthieu ainsi que Luc ont eu à reporter. Mais il y a certaines choses que l'on ne trouve que chez Marc. Par exemple, en lisant Marc chapitre 1, verset 13, on parle d'une expérience, c'est vrai, la plupart des évangiles parlent de la tentation de Jésus-Christ, mais c'est seul Marc qui fait mention de cela, que Christ a eu affaire aux bêtes sauvages. Seul Marc en parle. Marc chapitre 3, verset 7, nous parle du surnom qui est accordé à une famille à cause de leur caractère. Ces jeunes gens étaient appelés Boanerges, fils du tonnerre. Contrairement à Matthieu, qui a tendance, chaque fois qu'il écrit, à rattacher ce qui se passe avec les prophéties bibliques, parce qu'il a un auditoire juif. Marc, par contre, ne fait pas cas de beaucoup d'enseignements. Il parle plus des actions, plus des miracles, plus des choses que Christ a eu accomplies. Du reste, on retrouve 19 miracles mentionnés par lui. Et L'un des termes qui revient le plus souvent dans l'évangile de Marc, c'est aussitôt. Il passe d'une action à une autre. Et c'est ce Marc-là qui écrit cet évangile. Et dans cet évangile, il relate une bonne partie du parcours de Pierre. Pierre, qui était-il? Jean chapitre 1, verset 44, nous montre qu'il était originaire de Bethsaïda, avec André et un autre disciple du maître qui s'appelait Philippe. Dans Jean toujours, au chapitre 1er, verset 40 à 42, et Matthieu, chapitre 4, verset 19, sont deux passages que j'aime souvent mettre côte à côte. Deux passages qui, je ne crois pas que ces passages se contredisent, mais ces passages sont complémentaires. Ces deux passages nous parlent de ses premiers contacts avec le maître. Jean présente cela en disant que c'est d'abord André, son frère, qui a été en contact avec le maître et qui a fini par amener Pierre auprès du maître. Mais dans Matthieu, il est montré qu'un jour, alors qu'ils étaient dans leur barque, Christ est venu, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. J'aime beaucoup ces bouts de phrases. Il ne dit pas que vous deviendrez, il dit je ferai de vous. C'est-à-dire dans votre devenir, je serai participant. Je serai un acteur pour votre transformation. Mais une chose aussi que j'aime dans ces versets, il dit je ferai de vous. Il veut dire que ça sera un processus. Ça prendra du temps pour que vous quittiez un état A vers un autre état B. Et très vite, cet homme qui a rejoint l'équipe de Jésus-Christ, il a reçu des enseignements et l'on peut lire au travers des évangiles, petit à petit, il a commencé à prendre une place prépondérante. Si vous étudiez les évangiles, vous trouvez que Christ a travaillé avec les 70 et puis au moment où il a eu un groupe de 12, mais dans les 12, si le terme peut être utilisé, il avait quelques privilégiés. Trois, qu'il associait à certaines activités. Chaque fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que les autres apôtres ont dû penser à quelques reprises? Quand il agissait d'une certaine manière où on avait l'impression qu'il y avait des apôtres de première classe et des apôtres de seconde classe. Dans Marc chapitre 9, verset 2, la Bible nous montre qu'il était associé à l'expérience de la transfiguration. Christ déclare, il dit, certains d'entre vous ne mourront pas qu'ils verront le royaume des cieux. Et la Bible dit, un certain jour, il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Je me suis toujours posé la question, et les autres n'avaient pas besoin d'expérimenter la transfiguration? Pourquoi ces trios? Marc chapitre 14, au verset 33, nous montre aussi que Pierre est associé à l'un des moments les plus critiques de la vie du maître, l'agonie. Et le maître a voulu qu'il puisse être l'un des rares privilégiés à être témoin de sa faiblesse. Quand Christ devait aller sur la croix, il a senti le poids de ce qu'il devait accomplir. Et Matthieu en parle mieux, il dit, il parle à ceux qui l'entourent, il dit, mon cœur est rempli d'angoisse. Et il dit, restez avec moi. Et l'abbé dit, il commence à trembler. Mais parmi les trios qu'il a choisis pour assister à cela, encore une fois, Pierre était un mélange des qualités et des défauts. Quand je dis qualités et défauts, j'aimerais même dire qu'il avait peu de qualités, mais beaucoup de défauts. Pierre, ce n'était pas un homme équilibré. Pierre, il avait des hauts très hauts et des bas très bas. Pierre, c'est le genre de personne, waouh, il vous épate à 10 heures, mais à midi, il vous déçoit avec des majuscules. Je le disais au premier culte, quand je serai au ciel, l'une des premières personnes que j'aimerais voir, c'est celui qui m'a sauvé, qui est mort pour moi. Mais quand j'aurai fini de le voir, je lui demanderai, montre-moi Pierre, où est-ce qu'il est? Un homme fantastique. On a même l'impression, quelquefois, l'homme normal, il réfléchit, puis lui, il parle. Mais Pierre faisait l'inverse. Il parlait d'abord, puis il réfléchissait. Seigneur, qu'on construise trois tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. C'est qu'il veut dire, moi-même à la belle étoile, ça ne fait rien. Ça, c'est Pierre. Mais un mélange des qualités et des défauts. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur a pris cette matière première avec des scories, en sachant que de cette matière première, plein d'imperfections, je peux faire sortir quelque chose de bon. Combien aujourd'hui à l'église, nous aimons les personnes parfaites, les enfants parfaits, les filles parfaites, les filles polies qui chaque fois disent « s'il vous plaît ». Plaise à Dieu que nous avons des personnes comme ça. Mais Dieu, quelquefois, n'a pas besoin des personnes parfaites. Dieu prend des personnes disponibles qu'il rend parfaits. Des fois, dans l'imparfait d'aujourd'hui, se cachent les grands de demain. Et Christ a pris Pierre comme ça. Au fil des temps, Pierre a connu des expériences merveilleuses, dont le sommet a été le jour où la révélation est sortie de sa bouche. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, après que Christ ait posé la question, « Qui dit-on que je suis ?» Mais comme il était égal à lui-même, la minute d'après lui-même, il a annulé tout. Quand le maître commence à parler de sa passion, de sa souffrance, j'essaie de m'imaginer quand les maîtres parlaient, sûrement Pierre donnait des coups par terre et disait, mais comment il peut parler comme ça? Il va décourager les troupeaux. Et il a pris les maîtres à l'écart et dit, cela ne peut pas arriver. Ah, et Christ, qu'est-ce qu'il savait quelquefois parler? Christ l'a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Ah, si le pasteur vous dit arrière de moi, Satan, je m'imagine le dimanche prochain, vous ne venez pas. Vous allez à l'église du voisin. Pierre, il est fantastique. Même quand le Seigneur est dur avec tous les groupes et même avec eux, après qu'il ait parlé et un groupe s'est retiré, Jésus se retourne et dit, et vous, pourquoi êtes-vous resté? C'est encore Pierre. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais c'est Pierre, comme je dis, c'est un mélange des qualités et des défauts, et des fois beaucoup de défauts. Et l'un des défauts de Pierre, il était sûr de lui. Sûr de sa force, sûr de ses capacités. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, elle est incontournable dans notre vie. Ce que je peux faire, ce que tu peux faire, et même notre maintien dans la marche chrétienne, c'est vrai, il y a notre part, mais c'est la grâce de Dieu qui vient habiter en nous. J'ai vu chez nous au pays des gens imbus d'eux-mêmes. Des gens tellement bons qu'on ne peut pas les approcher. J'ai vu un prédicateur venir un jour dans une église. La manière dont il évoluait, c'est comme s'il était la sainteté faite homme. Quelqu'un a dit même, après, on dirait que c'est le Dieu adjoint, vice-Dieu. Il monte avant de prêcher, il prend les microphones, il fait, ça sent le péché ici. C'est comme s'il a un thermomètre spirituel. Il y a des gens, ils ont l'impression, après Dieu, c'est eux, Dieu adjoint ou Dieu suppléant. Dans son assurance, Christ l'a confronté. Dans Luc chapitre 22, verset 31, Christ révèle à Pierre un plan que Pierre ne voit pas, mais un plan qui existe. Il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Il veut te détruire. Ces plans enclenchés depuis 3 ans, qui font montre déjà des fruits, le diable veut faire avorter cela. Le diable ne veut pas que tu deviennes celui que j'ai rêvé. Il t'a réclamé. Et cet avertissement ne suffit pas. Matthieu chapitre 26, verset 30 et 35. Christ ouvre encore son cœur. Il parle à ses disciples. Alors que quelques heures plus tard, il sera arrêté. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et vous lirez le verset qui suit, 33. Ah, c'est encore Pierre. Tous ont entendu cela. Des jours mauvais viennent. Vous serez secoué, mais Pierre, prenant la parole, dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Seigneur, toi, tu ne me connais pas. Tu peux l'être pour ces petits-là, les gens qui sont encore là. Philippe, Thomas, pas moi, Seigneur. Je fais d'une matière résistante. Les autres, ils ont sur leur front écrit fragile. Moi, je suis fort. Verset 34. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras trois fois. J'aurais été à la place des pierres, je vais me taire. Mais verset 35, Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Seigneur, moi là, jamais. Ça, c'est Pierre. Il a dû sûrement être vexé. Qui s'est peut-être. Il a partagé à ses amis. Vous avez entendu les choses que le Seigneur a dit. J'ai l'impression qu'il ne me fait pas confiance. Et puis arrive l'instant où on vient arrêter Jésus. Et Pierre veut montrer de quoi il est. Il est capable. La Bible nous parle d'un geste qu'il a posé. Il a pris une épée, il a coupé l'oreille. Matthieu 26, verset 51. Et Matthieu est pudique, mais non seulement Matthieu, Luc aussi, et même Marc. Quand il parle de celui qui a coupé l'oreille, il s'abstient de citer le nom. Tous ils disent, un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit sa main, tira son épée, et frappa les serviteurs du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. C'est seulement Jean, dans Jean 18, verset 10, qui cite, il dit, Simon Pierre qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui tranchant l'oreille droite. Ça, ce n'est pas la Bible qui en parle. Ça, c'est moi, évangile selon Roland Dallo. Et dans cet évangile, je pense à deux choses. La première, je ne pense pas qu'il visait l'oreille. Il visait la tête et ça avait raté. Mais la deuxième des choses, je pense sincèrement, quand il a coupé l'oreille, il a dû se retourner regarder le maître. Qu'est-ce que je t'avais dit? Toi qui disais que j'allais fuir. Tu as vu là? Sûr de lui. Mais ça, ce n'était que le premier pas. Et subitement, Marc 14, verset 50 et verset 54, nous montre comment le tableau a changé. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et dans les tous, il y a Pierre. Quand il a vu ces soldats romains costauds, avec des épées, des lances, il a commencé à se dire, ça devient chaud ici. Mais il a eu un sursaut. Il a pris la fuite, mais le verset 54 montre, il était lié par un engagement qu'il avait pris, mais Pierre les suivait de loin. Il suit toujours, mais il y a de la distance. Il aurait voulu fuir comme tout le monde, mais il était lié. J'avais dit que je ne le renierai pas. Mais il faut être prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais il va mettre les combles. Il va faire des choses auxquelles il ne pensait pas. Les anglophones disent « never say never ». Il ne faut jamais dire « jamais ». Il s'imaginait jamais, même dans ce cauchemar le plus noir, faire ce qu'il a fait après. Marc 14, 66 à 72, nous parle du reniement. Celui qui était sous la montagne de la transfiguration, qui a vu la gloire du maître. Celui qui a vu le pain être multiplié. Celui qui a vu des lépreux être purifiés. Il a vu des morts ressuscités à trois reprises. Il a dit, je ne les connais pas. Quand cette femme dit, même ton langage montre que tu as... Je ne les connais pas. La troisième fois, la Bible dit, quand on l'a acculé, il a même fait des imprécations. C'est-à-dire, il a dit, si vraiment je les connais, voilà, que le ciel me tombe sur la tête. C'est-à-dire qu'il s'est engagé. On n'a aucune idée jusqu'où quelquefois le diable peut nous amener à présenter un tableau différent de ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est trompé un moment qu'il est faible toute la vie. Combien de fois nous collons des étiquettes aux gens? Nous n'arrivons pas à les relever, à les laisser se relever parce qu'une seule fois, ils ont fait une chose. Ah. Mais quand il a régné pour la troisième fois, la Bible dit que le coq a chanté. Et le maître s'est retourné, il a regardé. Le verset 72 nous parle de la conséquence. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, deux fois tu me régneras. Waouh. Et en y pensant, la Bible dit, il pleura. Mais j'aime surtout comment Luc reprend cela. Luc 22, verset 62, dit, étant sorti, il pleura amèrement. Le terme qui est utilisé là, amèrement, en grec veut dire secouer dans son homme intérieur. Les contextes montrent même, il pleurait, ça devait couler des yeux, ça devait couler des narines. Il était mal au plus profond de lui. Il se disait, je suis un raté. Je suis un gâchis. J'ai gaspillé toutes ces trois années. Voilà où j'en arrive. Je suis un bon à rien. Mais vous savez, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que Dieu aime quelquefois ces instants où l'homme est au plus bas, où il prend conscience que de par lui-même, il n'est rien et il ne peut rien. J'aime, en lisant la parole de Dieu, de voir les grands Élie. Quand Dieu accomplit des exploits par lui, il lance un défi au prophète Baal. Qu'est-ce qu'il est content d'être l'homme de la situation. Il n'y avait sûrement peut-être pas des journaux à l'époque, mais j'ai pu m'imaginer s'il y avait des journaux. Le lendemain, à la une, on allait intituler « L'homme de Dieu, l'homme de feu, Élie ». Partout, il passerait, les gens les salueraient avec respect. Waouh, vous avez été aux 450 prophètes de Baal. Les 400 ont starté. Il n'y avait pas match, mais tu vois ce monsieur-là. Ouf. Et puis Jézabel lui lance un défi et il se met à fuir. Et j'aime quand il s'enfuit. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit, c'est lui-même qui s'arrête. La Bible dit, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'aime bien ces instants où ce n'est pas l'extérieur qui vous juge. C'est vous-même qui rentrez en vous-même. Vous dites, je suis un pauvre type. Je ne suis pas si meilleur que ça. Et Pierre est arrivé à ça. Il était tellement mal à ses propres yeux et aux yeux des autres jusqu'à ce que le Seigneur soit enterré. Et c'est Pierre dans cet état qui vit ce que nous avons mentionné. Le Seigneur voit son état psychique, voit son état mental, voit son état émotionnel. Et quand le Seigneur ressuscite, dans son omniscience, il sait comment Pierre est. Il sait que Pierre est en train de s'auto-exclure. Pierre a une faible opinion de lui-même. Il dit à l'ange, quand cette femme va venir, donne-lui un message pour le mien. Va dire à mes disciples, mais surtout à Pierre. Il a fauté, mais j'ai encore besoin de lui. Il a trébuché, mais je n'en ai pas encore fini avec lui. Il présente un tableau sombre, mais j'ai encore besoin de lui. Ah, l'église ne doit pas être un cimetière où on enterre les imparfaits. L'église doit être un hôpital où on soigne les imparfaits, on les aide à se relever. Va dire à mes disciples et à Pierre. Et dans ce travail de réhabilitation, il a demandé qu'il se retrouve à un certain endroit, mais que Pierre ne manque pas. Qu'est-ce que Pierre a dû être content d'entendre ce message? Dans Jean chapitre 21, versets 1 à 17, la Bible nous relate cette rencontre de réhabilitation sur le bord du lac de Tibériade. Mais le verset 3 nous montre, 2 et 3 surtout, le verset 3 nous montre déjà l'état d'esprit dans lequel Pierre s'est retrouvé. Il est conscient qu'il n'est plus très bon pour être apôtre. Alors il décide. Il est bon que je retourne dans ce que je sais le mieux faire. Simon-Pierre, Thomas Didine et les autres allaient. Et Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et pourtant, ça fait 3 ans, il a laissé barque et filé. Ce qu'il veut dire, je préfère retourner dans ce dans quoi je suis un peu bon. dans l'apostolat, je ne suis pas si bon que ça. Et le Seigneur l'a suivi là. Mais j'aime la méthodologie de Christ dans la réhabilitation. Christ ne vient pas attaquer Pierre de go. Quelquefois, les gens sont au plus bas et nous les écrasons encore. Après qu'il y ait eu le miracle de cette pêche avec des gros poissons, la Bible dit au verset 14, c'était déjà la troisième fois que Jésus s'est manifesté à ses disciples. Les deux autres fois, c'était dans Jean 20, 19 et Jean 26. Jean 20, 19, quand il a apparu à tout le monde, mais bizarre, il a sûrement regardé Pierre, mais n'a fait mention de rien. Dans Jean 20, 26, il est apparu, il s'est occupé simplement de Thomas pour remettre les pendules à l'heure. Mais il savait que la troisième fois, je vais m'occuper de Pierre. Et quand ils finissent de manger, la Bible dit, il a pris Pierre à l'écart et lui a posé trois fois la question. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Quelle question difficile. Et même question piège. Pierre, si j'ai dit je l'aime, il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait il y a quelque temps? Et j'aime la réponse. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Verset 16. Tu sais que je t'aime. Et j'aimerais insister sur le verbe savoir. Seigneur, toi, tu vois au-delà des actes. Tu sais lire. J'ai fauté. J'ai pas agi comme j'aurais dû. Mais toi, l'omniscient, tu sais que celui qui t'a régné, malgré qui t'a régné, il t'aime. Celui qui est tombé au plus bas, c'est pas parce qu'il t'aime moins. Il t'aime, mais il a aussi fait ça. Mais j'aime le maître. Il les réhabilite. Va et paie mes brebis. Il nous confie encore des responsabilités. J'ai travaillé 12 ans comme pasteur adjoint. Et depuis 5 ans, je suis pasteur titulaire. J'essaie de me poser la question, Pierre aurait été ancien dans mon église. Qu'aurais-je fait? Je l'aurais fait asseoir, mesure disciplinaire, frère Pierre, 30 ans de désintoxication. Tu es tombé trop bas, Pierre. Ce que tu as fait n'est pas grave, Pierre, c'est gravissime. Mais le Seigneur l'a réhabilité. Combien de fois nous enterrons des champions? Combien de fois nous enterrons des géants parce qu'ils sont encore des nains? Combien de fois l'Église a détruit au lieu de relever? Mais non seulement le maître l'a relevé, mais la Bible nous montre après les exploits que cet homme a eu à accomplir. Acte 1, verset 15 à 22. Avant même que le Saint-Esprit ne puisse descendre, la Bible nous montre que c'est lui qui prend l'initiative. On sent les leaders pour que Judas puisse être remplacé. Acte chapitre 2, verset 14 jusqu'à la fin 39. C'est encore Pierre qui s'élève les jours de la Pentecôte. Les gens se posent la question, d'où vient ces bruits? La Bible dit, Pierre avec les 11. Et quand il sort, quel discours il tient. Il a un courage, il dit, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. C'est la même personne qui hier tremblait, mais qui aujourd'hui est capable d'exploits. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Il arrive devant la porte du temple, il voit un paralytique. Celui qui hier avait régné dit, or je n'ai pas, argent je n'ai pas. Mais ce que j'ai te le donne. Hier, il n'avait pas. Et si on l'avait enterré avec sa faiblesse, il n'aurait pas accompli cela. Ah, mais les combles. C'est Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 15. Vous savez, quand Dieu veut réhabiliter, dans la sauce, il met des ingrédients. Tous accomplissent des miracles. Il dit, beaucoup de miracles extraordinaires s'accomplissaient par la main des apôtres. Mais le verset 15 dit, quand Pierre passait, son ombre guérissait, pas l'ombre des gens, pas l'ombre de Philippe. Dieu, quelquefois, quand il veut réhabiliter, il donne des grâces particulières. C'est celui qui a régné qui accomplit les mêmes exploits. Église, que faisons-nous de ceux qui tombent? Que faisons-nous des faibles? En terminant, j'aimerais faire mention de Luc, chapitre 13, verset 6 au verset 9, l'une des portions des Écritures que j'aime le plus. La parabole du figuier stérile. Et je prie que Smyrne, moi-même aussi, nous puissions être comme ces vignerons. J'aime Jésus-Christ comme enseignant. Quand il voulait partager des vérités très élevées, il prenait des exemples de la vie de chaque jour. Il dit encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Je me suis investi, j'ai des ampoules ici parce que j'ai dû retourner la terre. J'ai dû venir arroser, j'ai dû venir émonder. Mais résultat, il n'y a pas. Couplet. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Ah, j'aime la réaction du vigneron. Seigneur, laisse-le encore cette année. Quelqu'un peut m'aider à dire, laisse-le encore cette année. Il est improductif, mais ne le détruit pas encore. Il n'est pas ce qu'il devait être, mais ne le détruit pas encore. Laisse-le encore cette année. Mais j'aime ce que le vigneron dit. Il s'attend à des résultats, mais il dit, ces résultats ne se feront pas sans moi. Non seulement laisse-le, mais il dit, je creuserai tout autour. Je serai participant pour les changements. Je mettrai du fumier. Je veux travailler pour qu'il y ait transformation. Mais c'est le verset 9 qui me met KO. Il n'est pas sûr du résultat, mais il est sûr de l'investissement. Par rapport au résultat, il dit peut-être produira-t-il du fruit. Peut-être. Je ne suis pas sûr des résultats, mais je vais tout faire. Je préfère m'investir et finalement qu'il n'y ait pas de résultats que de dire il n'y a rien à espérer. Va dire à mes disciples, mais surtout à Pierre. Smyrne, n'enterrons pas de Pierre. Fixons leur rendez-vous et relevons de Pierre. Je suis né dans mon pays, le Congo-Kinshasa, dans une province, pas dans la capitale. Quand j'étais né, mon père était loin de ma mère, ma grande sœur et moi, parce qu'il était allé chercher du travail à Kinshasa. Il était enseignant. Et j'avais à peine quelques semaines qu'une rébellion a éclaté, comme ça arrive souvent dans nos pays, surtout dans mon pays. Et ma mère a dit, elle a dû faire une 40aine de kilomètres à pied pour aller se cacher en forêt. J'avais à peine quelques semaines. Et là, j'ai fait une infection du cordon ombilical. Elle a dit, des pus sortaient. Elle a dit, un soir, j'ai crié tellement de douleurs et de fièvre. Elle a dit, Roland, ce n'est pas impossible que tu aies fait la fièvre, 40 degrés. Et là, dans cette forêt, je ne savais que faire, ni hôpital, ni médecin. Je voyais mon enfant en train de mourir. Il dit, à un moment, j'ai pris simplement ce petit enfant, je l'ai soulevé, j'ai dit, Seigneur, il n'y a ni hôpital, ni médecin en ces lieux, sauf cet enfant. Si tu les sauves, je te les consacre. Il te servira, fais avec lui tout ce que tu voudras. Il dit à un moment, elle m'a déposé à côté parce qu'elle ne voulait pas assister à la mort de son premier garçon. Elle n'osait pas regarder. Plus d'une heure après, quand elle a regardé, oh miracle, elle a vu ce petit bébé qui transpirait. Elle a dit, chose étonnante, la plaie avait séché. Elle a dit, j'ai jamais pu expliquer cela. Et dit, ces jours-là, je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, cet enfant, je l'ai mis à ton service. Les prières d'une mère. Les prières d'une mère. Et j'ai commencé à grandir à l'âge de 4-5 ans. Elle a commencé à m'amener à l'école du dimanche. J'ai chanté à l'église. J'ai encore en mémoire tout petit, des fois dimanche au culte, il y avait 500 000 personnes, on plaçait un petit tabouret et le petit Roland Dallot chantait.
Et tout le monde m'appelait pasteur. J'étais un garçon poli, bien éduqué, jusqu'à ce que j'atteigne mes 14 ans. Ma mère m'a dit, elle n'a jamais su ce qui s'est passé. On dirait que quelqu'un est venu la nuit me piquer quelque chose. Le tableau a complètement changé. Je commençais à fumer. Je commençais à boire et beaucoup boire. Je commençais à sortir. Elle avait l'impression que son rêve s'est transformé en cauchemar. Je commençais à voler l'argent. D'abord à la maison, et puis je me souviens un jour, je suis allé voler chez les voisins. Et quand on m'a attrapé chez les voisins, on m'a ramené à la maison, j'ai vu ma mère avoir honte, j'ai vu mon père aussi avoir honte. Et je me souviens quand les voisins sont partis, je suis venu me mettre à genoux pour demander pardon à maman et ma chasse. Va-t'en, tu es indigne d'être mon fils. Mais j'oublierai jamais. Quand quelquefois samedi, j'ai quitté la maison, en général, je m'y rentrais toujours dimanche l'après-midi. Et quand je venais, voici ce qu'était ma démarche. J'avais comme un vilain plaisir à faire mal. Quand maman disait A, moi je disais Z, les contraires. Mais j'oublierai jamais. J'ai trouvé ma mère dans cette position, je ne sais pas, 50, 100 fois. Je l'ai trouvée plus d'une fois à genoux au salon en train de prier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Je suis rentré à 3 heures du matin parce que j'avais les doubles des clés. Je venais d'une boîte avec des nuits avec des amis et j'ai senti l'alcool. Je l'ai trouvée à genoux en train de pleurer. Les visages pleins de larmes. Il répétait, Seigneur, sauve mon garçon Roland. Je suis venu la nuit, je lui ai dit, qu'il me sauve de quoi? Qui t'a dit que je suis perdu? Je lui ai dit, va dormir, tu t'époumones pour rien. Je lui ai dit, avec le recul, j'ai dit, Seigneur, merci pour une telle mère. Me disait, j'ai répété toujours, Seigneur, rappelle-toi de la prière que j'ai faite en forêt. Elle me dit, il y a des jours, je ne voulais plus croire que tu allais revenir. Mais j'ai pensé à cette prière. Un jour, de 85 en 5 novembre, elle m'a vu rentrer brisée. J'étais de nouveau en contact avec l'Évangile. Je suis rentré, je commençais à pleurer, je pleurais à chaudes larmes, je n'ai jamais oublié. Mon premier jour de conversion, je l'ai passé à jeûne, non pas parce que je voulais, mais je n'avais pas envie de manger. J'ai dû faire asseoir papa et maman, je commençais à remettre les pendules à l'heure. Maman, tu te souviens, tel appareil de communication qui avait disparu pour lequel j'avais dit que je ne savais pas, c'était moi. Tu te souviens de telle enveloppe où quelqu'un avait amené un montant de 1000 dollars et on m'avait demandé, j'ai dit c'était encore moi. J'ai tout remis. Mais qu'est-ce que j'étais bien dans ma conscience? Et petit à petit, les pasteurs qui prêchaient sur les tabourets a commencé à revenir. Je n'ai jamais oublié cette date, le 31 décembre en 2005. Il y avait une grande réunion comme on organise souvent chez nous à Kinshasa. Plusieurs églises se retrouvent au stade pour dire merci au Seigneur pour l'année qui est en train de finir, mais aussi présenter l'année nouvelle. Et il y avait plus de 60 000 personnes dans ces grands stades. Et l'orateur, c'était moi. Et j'ai jamais oublié, juste avant la prédication, j'ai demandé la permission de présenter ma mère. Elle s'est levée, elle était assez éloignée, mais il y avait un écran géant. Et quand elle s'est levée, j'ai vu les larmes coulant de ses yeux. Après, elle me dira, je me demandais si tu allais redevenir celui que tu étais quand tu étais tout petit. Va dire à mes disciples, et à Pierre, surtout à Pierre, que je n'en ai pas fini avec lui. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Alors que nous avons nos têtes courbées, j'aimerais inviter mon frère, le pasteur Caillou, à venir reprendre les micros. Et à Pierre.
notre Seigneur ne prend aucun plaisir à nous voir nous perdre. Il avait un rendez-vous spécial pour Pierre. Une réhabilitation spéciale. Une provision spéciale. Malgré tout l'investissement qui, semble-t-il, n'avait pas porté fruit, il a persévéré. C'est une persévérance spéciale. Peut-être vous connaissez beaucoup de Pierre qui sont des proches. Vous aimeriez que le Seigneur leur donne une invitation spéciale. Aille les voir. Il est capable de le faire. Amen. Il est capable. J'aimerais que les yeux fermés, on ne va pas élever la voix, mais dans notre cœur, on va parler à notre Dieu. Et à Pierre. Peut-être tu as honte de toi-même, tu as honte des gens. Comme le serviteur nous l'a si bien fait remarquer, le Seigneur savait que s'il avait dit « va dire à mes disciples », Pierre ne serait pas venu. Mort de honte, sous le poids de sa culpabilité. Le Seigneur te dit, il a, pour toi, il a le rendez-vous spécial. Amen. Ce n'est pas comme les gens te voient, mais c'est comme Dieu te voit. Ce n'est pas où est-ce que tu es, mais c'est où est-ce que tu seras en lui. Les gens voient un zéro, mais le Seigneur voit un héros dans sa grâce. Amen. Et à Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il y a une prière spéciale qui est en train d'être faite maintenant pour toi. Le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur Jésus intercède pour toi en ce moment même. Alors que tu te présentes devant lui. Parle-lui dans ton cœur. Présente aussi beaucoup d'autres pierres que tu connais. Ces pierres peuvent être des proches. Des gens qui vous sont chers. Des gens que vous connaissez. Demandez ce rendez-vous spécial pour eux aussi. Va dire à mes disciples. Et à Pierre. Et si tu veux revenir au Seigneur, là dans ton cœur, où tu es, le Seigneur peut te restaurer, te rétablir, te donner un renouveau. Mais faut-il bien répondre au rendez-vous? Pierre devait répondre à ce rendez-vous. Ne laissons pas passer ces rendez-vous de restauration. Ces rendez-vous de réhabilitation. Dieu soit loué, de la grâce de Dieu, Pierre avait répondu au rendez-vous. C'était... Ne laissez pas passer le rendez-vous. Va dire à mes disciples et à Pierre. Parle à ton Dieu maintenant. Oui, Seigneur. Bonheur. Un Jésus qui mérite d'être aimé. Amen. Il n'y a pas comme lui. Hein? Il n'y a pas comme notre Jésus. Pas mal d'entre nous auraient été déjà écartés. Depuis longtemps. Amen. Depuis longtemps. On ne serait que souvenir. Mais la grâce encore toujours veille. Amen. La grâce persévère. Amen. Dieu persévère. Pour dire, je creuserai encore. J'y mettrai du fumier peut-être. Amen. Amen. Cette patience-là du Seigneur à notre endroit. Je lui donnerai encore une chance. Et quand nous connaissons ce Seigneur de tout notre cœur, nous pouvons faire autre chose que de l'aimer. Amen. Que de l'aimer. Il mérite notre amour. Ce n'est pas n'importe qui. Et lorsque notre voix expirante ne s'entendra plus, lorsque nous passerons de ce monde au trépas, lorsque nous traverserons de l'autre côté, nous entendrons encore notre âme nous dire, si jamais je t'aime, Seigneur, c'est bien maintenant. Ce Jésus est formidable. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous dirige. Va dire à mes disciples et à Pierre. Et à Pierre. Allez en paix. Allez en paix. Allez en paix. Mais assuré de l'amour du Dieu qui persévère. Amen. De l'amour du Dieu qui persévère. Allez en paix. Allez dans la paix.